Nous avons Rodrigue Vigneault, candidat du Parti conservateur dans Manicouagan. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler justement des enjeux qui vous préoccupent pour les prochaines élections qui vont avoir lieu le 20 septembre prochain.
Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler aux gens de la Haute-Côte-Nord. C'est bien sûr que c'est une portion du territoire que j'ai été pour travailler, que j'ai un petit peu moins visité récemment, mais j'ai eu des messages à la fois web et personnel d'y retourner, et puis ça fait partie de mon programme pour le reste de la semaine et possiblement la semaine prochaine. Mais soyez assurés d'une chose, je vais être à l'écoute des besoins de la Haute-Côte-Nord autant que ceux du reste du territoire. Et étant originaire de Natashquan, le voyagement et les déplacements sur l'ensemble du territoire font partie de mon quotidien parce que c'est ça ma carrière à laquelle j'ai pensé de voyager sur la Côte-Nord. Alors, soyez assurés d'une chose, les priorités de la Haute-Côte-Nord deviendront les miennes à partir du 21 septembre si les gens de la Haute-Côte-Nord me font confiance aux prochaines élections.
Et justement, vous êtes natif de Natashquan, vous résidez à cette île, vous dites que vous n'avez pas peur de faire de la route. On peut parler peut-être de la sécurité des routes lorsqu'on parle de la 138, évidemment, mais aussi la 389, le réseau cellulaire, les téléphones d'urgence qui sont très loin l'un de l'autre sur la 389, entre autres. Dans le dossier, justement, des conservateurs et pour vous, la sécurité de la route, c'est quoi l'enjeu et c'est quoi l'importance de cet enjeu-là?
Je suis très, très au fait et très, très sensible à cet aspect-là. Ayant à faire une quantité de près de 60 000 km pour mon travail l'an dernier seulement, il y a des voitures qui n'ont même pas ça pour leur durée de vie. Alors, la route 138 et ses particularités à la fois de sécurité et de télécommunication, pour être un ancien de TELUS dans ma carrière, c'est bien sûr que c'est une priorité, c'est primordial, parce qu'il y va de l'aspect sécurité, puis il y va de l'aspect couverture aussi. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les gens ont tendance à mêler les deux chapeaux, et l'aspect sécurité est plus un volet provincial de la sécurité publique, et l'aspect couverture est plus une responsabilité du CRTC et des télécommunicateurs qui veulent bien desservir un réseau. J'ai déjà des démarches de fait avec les gens de TELUS Mobilité. Il sera possible d'en faire avec les gens de Bell aussi, parce qu'il est de la volonté du plan conservateur d'offrir une couverture cellulaire, une couverture de réseau sur l'ensemble du territoire pour, comme je viens de vous dire, pour avoir parcouru l'ensemble du territoire par la route 138 de Kegaska à Sacré-Cœur au cours des dernières semaines, des derniers mois. Je sais particulièrement où sont les manques de réseau et puis soyez assurés d'une chose, ça va faire partie de mes priorités parce que autant que les habitants des autres régions du Québec, la Côte-Nord aussi a besoin d'avoir ce service-là qui aujourd'hui, en 2021, est une réalité avec laquelle on doit composer, puis on ne peut pas être laissé pour compte là-dedans et compter sur moi pour défendre ce point-là parce qu'il est primordial.
Monsieur Vigneault, je vous amène sur un autre sujet, le pont sur le Saguenay. Vous avez dit en conférence de presse que si la route était considérée comme nationale, le dossier pourrait mieux avancer, selon vous.
Tout à fait, parce que, regardez, M. Trudeau est allé dans Colombie-Britannique la semaine dernière parler d'un tunnel entre deux villes dont j'oublie le nom, parce que c'est des routes nationales qui sont reconnues comme telles. La route 138 est une route à caractère provincial, puis des fois, il est plus difficile pour le fédéral de s'y impliquer parce que la responsabilité, elle n'est que provinciale. Mais comme dans le cas du cellulaire que vous avez dit tantôt, la reconnaissance d'une route nationale aurait pour effet d'obliger le fédéral à s'y impliquer, et d'autant plus qu'en débouchant la route 138 vers l'est, ça deviendrait une porte de sortie pour les résidents de Terre-Neuve qui, aujourd'hui, doivent faire la route 500 et passer par la 389 au Labrador pour sortir de chez eux s'ils veulent sortir avec leur véhicule via le traversier à Blanc-Sablon, encore passer par les Maritimes en Nouvelle-Écosse. Et les deux aventures, bien, on parle de quelque chose comme une vingtaine d'heures de déplacement. Alors que demain matin, il y aurait une route entre cette île, Kegaska, c'est-à-dire, et Blanc-Sablon. Bien, de partir de Blanc-Sablon pour venir à cette île, on parle de peut-être d'une douzaine d'heures de route, ce qui vient couper par deux la durée d'un trajet actuel. Donc, tout ça fait que à partir du moment où c'est qu'il y avait, il y aurait ce débouché routier-là, on peut penser d'exploitation minière, on peut penser de touristique, on peut parler de monde touristique, de services touristiques, on peut penser aussi de faciliter de transporter les frais, les biens de première nécessité pour les gens de la Basse-Côte. Et à partir du moment où la route est reconnue nationale, c'est-à-dire, par exemple, à partir de Québec vers l'Est, bien là, la logique, c'est-à-dire de financement d'un pont sur le Saguenay, bien là, il vient pratiquement obligatoire que les deux paliers de gouvernement s'assoient ensemble et disent qu'est-ce qu'on peut faire pour cette affaire-là. Aujourd'hui, les gens sont braqués sur le provincial parce que la responsabilité de Transport Québec, d'un pont, incombe à Transport Québec. À mon avis, c'est sûr que là, aujourd'hui, le Transport Québec, tout seul, peut-être que pour toutes sortes de raisons que je ne connais pas ou que certaines que je peux connaître, ne veulent pas s'aventurer dans cette chose-là tout seul. Mais je pense que je ne suis pas en train de vous dire que le Parti conservateur va demain matin construire un pont sur le Saguenay, mais comptez sur moi pour faire asseoir à la même table, par exemple, les décideurs là-dessus. Combien d'élections se sont faites à la fois sur la route 138 et le pont sur le Saguenay? J'ai pris connaissance de la littérature là-dessus, puis on parle quasiment de 50 ans, qu'on parle d'affaires qui n'est pas réalisée, qu'on est rendu en 2021. Moi, comme étudiant, dans les années, fin des années 70, début 80, j'ai dû partir de Natashquan en avion ou en bateau pour venir à l'école à Saint-Pierre et à Sept-Îles par la suite. Aujourd'hui, il y a une route, les jeunes sont capables de retourner coucher chez eux le soir pratiquement quand on est à l'école à Saint-Pierre. C'est tout un changement de contexte. Alors, pour les gens de la côte, c'est la même chose. Tout le monde a droit d'être capable d'avoir des biens de première nécessité frais et au prix du marché, ce qui coûte les yeux de la tête aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un tout, mais on ne peut pas réaliser ça du jour au lendemain. Mais sauf que quand on fait asseoir les bonnes personnes, et l'autre affaire que je vous disais tout à l'heure lorsqu'on a préparé l'entrevue, ben, c'est sûr que quand un parti qui a un pouvoir de décision, qu'elle soit au pouvoir directement ou dans la première opposition, tu as beaucoup plus de pouvoir de négociation et de faire avancer tes affaires que si tu es dans la deuxième ou la troisième ou la quatrième opposition. Et c'est ce que je revendique aux gens de la Côte. Je dis aux gens de la Côte, un vote pour le Bloc aujourd'hui est pratiquement un vote pour M. Trudeau de le conserver en place. Fait que si vous voulez changer les affaires, ben chiolez pas après Trudeau si vous continuez de voter pour le Bloc. Les gens ont le droit de choisir, puis ça, là-dessus, je respecte ça, c'est un choix personnel de savoir où on va mettre notre X aux prochaines élections. Mais il faut que la suite des choses soit aussi concrète de dire, ben si j'ai fait ce choix-là, c'est pour améliorer mon sort ou bien rester comme je suis là. Et c'est le choix que j'offre au Nord-Côtier, d'être capable d'être un porteur de ballon de dossiers régionaux. Et quand M. Martel du Parti conservateur m'a interpellé, le député de Chicoutimi, j'ai dit, Richard, je vais suivre la ligne de parti, je vais faire attention de ne pas mettre personne dans l'embarras, mais si le 20 septembre au soir, les Nord-Côtiers me font confiance, en caucus, vous allez me trouver tannant si je n'obtiens pas ce que je veux, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une menace, dans le fond? C'est d'être capable de s'assurer de défendre à un autre niveau les besoins de la Côte-Nord. Et c'est ça ma carte de visite, c'est ça que je promets aux gens. Je ne peux pas promettre la lune parce que, de toute façon, dans toutes les élections, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais celle-là, d'être capable d'affirmer au Nord-Côtier que je serai un porteur de ballon, que je vais travailler le plus fort possible. Et l'autre élément, de demeurer accessible, de rester en connexion avec les gens du milieu, que si les choses n'avancent pas à leur goût, ben, ils seront capables de me contacter et de dire « Regarde, Rodrigue, ça n'avance pas assez vite, mets de la pression ou merci pour ce que tu as fait comme exercice. » Et c'est un peu ma façon d'être. Vous avez dit tantôt que vous vouliez faire un portrait. Je pense que le portrait que je décrirais de ma personne, c'est de dire « Regarde, je n'ai pas peur de l'ouvrage, je n'ai pas peur de me salir les mains. Ma carrière a été une carrière au service de la population. » Ce n'était pas toujours jojo dans le domaine des télécommunications, mais j'ai toujours été capable de faire face à la musique. Et je pense que ça restera la même recette en politique.
Mm-hmm. Bien, faut dire aussi qu'il y a un autre enjeu qui est très important, et je pense que dans tous les candidats, ça va revenir aussi, c'est à quel point la Côte-Nord, malheureusement, les citoyens quittent, ne reviennent pas. Il y a ça qui est très, très important. Il y a le manque de main-d'œuvre aussi. Il y a aussi, on peut entrer en ligne de compte la PCU qui est encore en vigueur. Donc, il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas assez de personnel. Selon vous, c'est quoi la solution qui pourrait faire en sorte que les gens s'y installent et restent aussi dans la région?
Je vous donnerai une réponse à deux volets là-dessus. dans le plan conservateur, il y a un élément qui dit que pour favoriser le retour au travail, ben, pendant les 6 premiers mois d'un nouvel emploi, le gouvernement assumerait 50 % de la facture des entreprises et, en même temps, offrirait des conditions salariales aux employés pour les attirer dans les emplois. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, puis là-dessus, je vis ça au quotidien depuis les dernières journées parce que ma mère est en milieu CHSLD, puis les travailleurs qui travaillent dans ce domaine-là sont des immigrés, des gens qui viennent d'immigrer au Québec et puis qu'on accueillit ici, mais avec des métiers, étaient capables de faire dans leur pays, mais que ne sont pas reconnus ici. Je pense qu'on doit favoriser l'immigration à une plus grande échelle si on veut répondre aux besoins démographiques de la Côte-Nord. Les personnes âgées quittent, les jeunes ne reviennent pas parce qu'ils partent aux études puis ne reviennent pas sur la Côte-Nord. Si on veut répondre aux besoins de main-d'œuvre, je pense qu'il faudra une immigration structurée, contrôlée, mais qui dit immigration dit aussi intégration. Et je parlais avec des citoyens de cette île hier encore, entre autres, un monsieur, un Philippin, qui est à cette île depuis 7 ans. En Philippines, il était ingénieur et il a travaillé comme laveur de vaisselle pendant 3 ans avant d'être capable de faire reconnaître ses certifications d'ingénieur. Et aujourd'hui, il occupe un emploi dans une entreprise très en vue à cette île, que je nommerai pas, mais ça reste quand même que la reconnaissance des acquis, un médecin au Sénégal, un ingénieur aux Philippines, à mon avis, à partir d'une reconnaissance des acquis, pour avoir vraiment un portrait de ces personnalités-là, s'ils viennent ici pour améliorer leur sort, offrant-leur l'opportunité de travailler dans leur métier. C'est sûr qu'il y en a qui vont s'en venir ici pour améliorer leur vie et qui n'ont pas nécessairement de métier dans leur bagage, mais ceux qui l'ont, un mal de tête à Madagascar ou un mal de tête en Haute-Côte-Nord ou à cette île, c'est un mal de tête aussi, là.
Donc, vous me dites que dans le Parti conservateur, c'est une des priorités, la reconnaissance des acquis pour les gens qui ont un métier X dans un autre pays et qui viennent immigrer ici au Canada et même sur la Côte-Nord, évidemment.
Tout à fait, parce que tout à fait. Et puis, le gouvernement du Québec veut étendre cette option-là d'aller chercher de l'immigration. Nous aussi, c'est sûr qu'on ne peut pas attirer des gens ici sans leur offrir une terre d'accueil qui répond à leurs aspirations, sinon ils ne resteront pas ici. Mais je pense qu'on est capable de. La Côte-Nord a un caractère accueillant, la Côte-Nord a un caractère de chaleureux. Alors faisons profiter à ces gens-là la qualité de vie de la Côte-Nord et assurons-nous que ce qu'on attire chez nous va y demeurer puis va travailler dans un domaine d'activité qui leur est propre et qu'ils connaissent. À partir du moment où on était capable de valider, bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait comme bagage avant d'arriver ici. Alors, ça, moi, je pense que ça peut être un élément intéressant. Puis c'est bien sûr que vous avez tantôt parlé de la PCU puis de la PCRE. Moi, je pense que le Parti conservateur a voté pour ces programmes-là à la base. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu un bar ouvert où, oui, il y avait une pénurie de main-d'œuvre bien avant la PCU et la PCRE. La poursuite de ces programmes-là sans aucun contrôle a fait que ça vient pénaliser les entreprises qui auraient eu besoin de cette main-d'œuvre-là, qui, à mon avis, est disponible, mais profitent de l'opportunité qui leur est donnée. Puis on ne peut pas blâmer ces gens-là. Mettez 10 personnes dans votre maison, 10 jeunes enfants dans votre maison, mettez un plat de bonbons au centre de la table. Je pense que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont piger dans le plat de bonbons. Puis c'est tout à fait humain et tout à fait normal de réagir demain. Mais ce que je dis, c'est que pourquoi on serait capable d'offrir des programmes en temps de crise, c'est une chose. Perdurer un programme pour un bonbon électoral, à mon avis, ça, les gens, la population n'est pas dupe à ce point-là et la population est capable de faire la part des choses. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'on a un effet pervers de ces programmes-là qui font perdurer la pénurie de main-d'œuvre chez nous.
En parlant de programme, il y a un programme qui est plutôt fait par le CIS de la Côte-Nord sur des techniques futures, des techniques qui font en sorte que quelqu'un qui pourrait terminer sa technique pourrait travailler 3 ans sur la Côte-Nord aurait une bourse quelconque importante. Madame Gill a expliqué en conférence de presse que pour le Bloc, c'était une priorité de ramener le 8 000 $ sur 3 ans comme bourse pour les gens qui viennent travailler sur la Côte-Nord. Ça s'est déjà vu dans le passé, mais c'était post-secondaire. Là, ça, c'est vraiment pour tous les métiers. Est-ce que ça pourrait être un programme qui, selon vous aussi, serait intéressant pour garder les gens un minimum de 3 ans?
En faire un programme à large, puis dire, tu t'en viens chez nous, puis tu as 8 000 $, c'est peut-être En tout cas, je ne veux pas critiquer Mme Gill et ses idées, sauf que je pense que à partir du moment où un parti au pouvoir a vraiment un réel pouvoir de changer les choses, je pense qu'il y a possibilité de travailler avec les gens du milieu, puis voir quelle est la formule qui est la plus appropriée pour répondre aux besoins du milieu. Mais lancer quelque chose comme ça, puis dire c'est la formule miracle, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des programmes fédéraux qui existent, il y a des programmes de reconnaissance de bourses ou de bourses d'études, appelons-la comme on voudra, ou de bourses d'installation. Il y a des municipalités qui offrent des crédits de taxes, par exemple, pour essayer d'aller chercher les nouveaux citoyens. Des formules, il y en existe beaucoup. Mais je pense qu'à partir du moment, à partir de ce qui existe déjà, puis à partir de la possibilité pour les employeurs, comme je vous disais tantôt au début de l'entrevue, d'avoir des crédits qui permettent de supporter, par exemple, les six premiers mois d'un nouveau travailleur dans une entreprise, bien, à quelque part, si ce six mois-là, cette subvention-là ou ce support-là permet à l'entreprise de survivre puis de repartir sur une bonne base. Parce qu'il y a plein d'entreprises, que ce soit dans le monde du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les salles de spectacle, ces choses-là, il y a du monde qui va avoir besoin d'aide tantôt. Ça ne s'appellera plus PCU, mais ça va peut-être s'appeler d'autres programmes de réinsertion en emploi qui fait qu'on va être capable de recycler des travailleurs qui vont devoir, pour continuer de vivre puis être capable de mettre du pain et du beurre sur la table, de changer d'emploi parce que l'emploi qu'il y avait auparavant n'existe plus. Alors, c'est sûr qu'il y a diverses formules. Moi, je pense qu'il s'agit de trouver la bonne et de trouver aussi quelque chose qui répond aux besoins du milieu. Et l'argent ne pousse pas dans les arbres. M. Trudeau a dépensé beaucoup d'argent au cours des derniers mois. Le carnet de chèques était ouvert. Tantôt, il faudra payer. Tantôt, il faudra gérer comme il faut le pays. Et à cet égard-là, je pense que les générations de nos petits-enfants vont continuer de payer un petit bout là, avec ce qu'on a dépensé. Il faut faire attention avant de dire on lance un programme puis ça va être ça la panacée pour la Côte-Nord. Je pense que il y a de multiples horizons à être capable à explorer. L'immigration en est un. S'assurer de supporter l'entreprise et les travailleurs, bien sûr. Puis après ça, je pense qu'on est capable à mon avis, de réussir à remettre la Côte-Nord sur les rails. Mais encore faut-il d'avoir un porteur de ballon à Ottawa qui va être capable d'amener les dossiers de la Côte-Nord à un autre niveau, puis au niveau de décision et non au niveau de tout le temps quémander. Parce que quand, je répète ce que j'ai dit tantôt, quand tu es dans un parti avec un certain pouvoir ou un pouvoir certain, tu es capable de faire avancer les choses. Si tu es obligé tout le temps d'aller t'associer avec les libéraux tantôt, les conservateurs tantôt, les NPD tantôt, pour faire avancer tes affaires, tu es tout le temps en demande. Puis quand tu es en demande, tu passes bien souvent pas le premier. Alors moi, je pense que c'est ça que j'essaie de faire comprendre et de tenter d'offrir aux Nord-Côtiers, d'avoir un réel pouvoir à Ottawa, d'avoir un pouvoir d'influence. Puis, comme j'ai dit tantôt, si on arrive à gagner ce comté-là, je pense que les Nord-Côtiers vont avoir quelqu'un qui va être tannant un peu et qui va parler d'eux autres parce qu'on est méconnu sur la Côte-Nord. On est souvent oublié parce que quand tu n'as pas de porteur de ballon de calibre, les gens ne parlent pas de toi. Puis il faut faire attention. Il faut toujours agir avec dignité et respect. Puis ça, là-dessus, je vais essayer d'être le plus respectueux des champs de compétences aussi.
Je vous dirais qu'on aurait encore beaucoup, beaucoup de dossiers à parler, mais j'ai l'impression qu'on a fait une partie du tour, évidemment. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une bonne campagne et au plaisir de se reparler.
Il n'y a pas de problème, Mme Paquette.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bye-bye. Bonne journée.
Bye-bye.